Merci d'écouter RFI, les 5h, ici à Paris, 7h, à Téhéran.
Martin Guez.
Et bienvenue, c'est l'heure du journal et voici les titres de ce vendredi 18 avril 2025. Une poignée de main timide, qui veut dire beaucoup, celle du prince saoudien Khalid Ben Salman et du président iranien Massoud Pezeshkian. Signe de rapprochement entre les deux vieux ennemis du Moyen-Orient, l'Arabie saoudite qui s'oppose à une possible intervention militaire américaine en Iran. Les États-Unis persuadés qu'un accord commercial sur les droits de douane sera bientôt signé avec l'Union européenne. Donald Trump en est sûr à 100% et en attendant, la Banque Centrale Européenne se montre elle prudente et abaisse à nouveau ses taux d'intérêt. Enfin, deux Nigérians à Paris, et non des moindres, le président Bola Tinubu qui effectue son 8e passage dans la capitale française depuis le début de son mandat, il y a 2 ans, ce qui pose question et indigne l'opposition. Et puis lui est de retour après avoir enflammé la Défense Arena et le festival Wheel of Green l'an dernier. Burna Boy est au Stade de France ce soir, ses fans sont déjà prêts, vous l'entendrez. Signal rétabli entre Riyad et Téhéran. Le ministre saoudien de la Défense, le prince Khalid Ben Salman, est arrivé dans la capitale iranienne pour une rencontre rarissime avec le président Massoud Pezeshkian. Signe de rapprochement des deux pays qui avaient totalement rompu leurs relations diplomatiques en 2016, avant de les reprendre peu à peu en 2023. Une rencontre qui intervient alors que les États-Unis menacent de s'en prendre militairement à l'Iran en cas d'échec des discussions actuelles à propos du programme nucléaire iranien. Une option militaire américaine vue d'un très mauvais œil par l'Arabie saoudite, nous dit Pierre Razou. Il est directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques.
Le prince héritier saoudien veut signifier à la Maison Blanche et au Pentagone que l'Arabie saoudite est fondamentalement hostile à une opération militaire visant l'Iran et que dans l'hypothèse d'une telle opération, l'Arabie saoudite resterait neutre, ne s'engagerait pas, voire même peut-être aiderait indirectement l'Iran. Et le message à Israël et notamment à Benjamin Netanyahou, c'est de lui dire si vous voulez une normalisation entre l'Israël et l'Arabie saoudite, non seulement il y a le dossier palestinien, mais si vous attaquez l'Iran, n'imaginez plus pouvoir normaliser avec nous.
Des propos recueillis par Pierre Olivier après de premiers échanges indirects la semaine passée à Oman, Américains et Iraniens qui doivent se retrouver ce samedi pour un nouveau cycle de pourparlers. Ce sera cette fois-ci à Rome, en Italie. Des frappes américaines au Yémen, où les rebelles houthis dressent un bilan d'au moins 20 morts, dont 5 secouristes, lors de frappes sur le port pétrolier de Racisa. C'est en mer Rouge, des raids revendiqués par Washington, l'armée américaine qui dit avoir mené des bombardements ayant abouti à la destruction du port, source économique du pouvoir des houthis, selon les États-Unis. Israël continue de pilonner la bande de Gaza, au moins 40 morts ce jeudi, selon les secouristes. Et 10 nouvelles victimes ce matin, vient d'annoncer la défense civile palestinienne, alors que le ministre israélien des Finances, figure de l'extrême droite Bezalel Smotrich, appelle à intensifier les combats contre le Hamas. Cela fait suite au refus du mouvement islamiste palestinien qui a rejeté hier une proposition israélienne de trêve. Le Hamas qui réclame un accord complet pour mettre fin à la guerre, qui impliquerait un échange unique de prisonniers et un retrait israélien de la bande de Gaza. En Europe, la guerre commerciale de Donald Trump qui continue de faire des remous, guerre commerciale qui pourrait prendre fin selon le président américain qui s'est dit sûr à 100% qu'un accord sur les droits de douane serait bientôt trouvé avec l'Union européenne. Déclaration faite en marge hier de la visite de la première ministre italienne Giorgia Meloni à Washington. Pour l'instant, la Banque centrale européenne se montre très prudente et sa présidente Christine Lagarde estime que face à l'imprévisible, il faut être agile. La BCE qui a donc décidé de baisser pour la 6e fois de suite ses taux directeurs de 0,25 points. Le voilà 2,25, une décision qui vise à stimuler la croissance, Nicolas Feldman.
Jusqu'ici, tous les indicateurs sont encore au vert. Une croissance stable, une inflation proche des 2% et un chômage qui continue de baisser. Mais la guerre commerciale lancée par Donald Trump risque de peser sur la zone euro. Les perspectives de croissance sont mauvaises, les marchés fébriles et la confiance dans l'économie s'érode, ce qui n'est jamais bon ni pour les entreprises, ni pour les ménages. En abaissant une nouvelle fois ses taux, la BCE espère ainsi créer l'inverse, redonner confiance et stimuler la croissance de la zone euro. Des taux directeurs plus bas, c'est la promesse pour les banques et donc pour les entreprises et les ménages d'emprunter moins cher, ce qui mécaniquement doit favoriser les investissements et la consommation. Mais attention, prévient la présidente de la BCE, Christine Lagarde, car plus que jamais, tout peut changer très vite. C'est pourquoi la Banque Centrale Européenne promet de rester les yeux rivés sur les données économiques, des chiffres qui doivent déterminer, réunion par réunion, l'orientation de sa politique monétaire.
Nicolas Feldman du service économie de RFI. Donald Trump qui affiche également son optimisme concernant les minerais ukrainiens. Un accord sera signé jeudi prochain, avance-t-il. Kiev qui annonce de son côté avoir conclu un mémorandum d'intention avec Washington. Annonce qui fait suite à la réunion de Paris hier entre Européens, Américains et Ukrainiens. Nouveau rendez-vous à suivre prochainement à Londres. L'Ukraine où la guerre continue. Une attaque de drones russes a fait 2 morts hier dans la région de Kherson. RFI, il est 3h05 en temps universel comme à Abidjan. L'actualité africaine à présent. Et d'abord ce plébiscite, 99,5% de voix pour Tidjane Thiam. Et le candidat du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, avant l'élection présidentielle du 25 octobre dans le pays, reste une étape importante pour l'ancien banquier de 62 ans, bousculé par une polémique sur sa double nationalité. Et s'il a récemment renoncé à son passeport français, ses détracteurs estiment qu'il n'est plus ivoirien, ce qui pourrait remettre en cause la légalité de son élection à la tête du PDCI. C'était en décembre 2023, une affaire qui sera jugée jeudi prochain. Au Nigeria, les nombreuses absences du président Bola Tinubu qui posent question et qui agace l'opposition pour la 8e fois depuis le début de son mandat, en juin 2023. Le chef de l'État nigérian, âgé de 73 ans, est en France. Bola Tinubu, qui a quasiment passé 2 mois officiellement pour des visites privées, des absences répétées, vécues comme une insulte pour les partis d'opposition, alors que le pays est en proie aux violences. Lisa Fabian.
Bola Tinubu a passé au moins 2 mois en France depuis son investiture, selon les décomptes de la presse nigériane. Hormis une visite d'État à l'invitation d'Emmanuel Macron en novembre dernier, il s'agit généralement de visites privées ou de visites de travail, sans que l'on en sache beaucoup plus sur le programme exact du président nigérian. Son séjour actuel a été décrit comme une retraite qui lui permettrait de faire un bilan de mi-mandat. Cette fois encore, la présidence a dû démentir les rumeurs persistantes selon lesquels Bola Tinubu se rend à Paris pour voir ses médecins. Pour le chef du Parti démocratique populaire, ce voyage sonne en tout cas comme une insulte au moment où le Nigeria est à feu et à sang, selon ses termes. Atiku Abubakar pointe le manque d'empathie du président face à la détérioration de la situation sécuritaire dans le centre du pays, particulièrement dans les états de Benue et Plateau, où plus d'une centaine de personnes ont trouvé la mort dans des heurts intercommunautaires ces 2 dernières semaines. Même sentiment du côté de Peter Obi, le leader du parti travailliste nigérian, qui évoque une nation en détresse que Bola Tinubu n'aurait pas dû quitter.
Explication signée Lisa Fabian. Et puis un autre Nigérian dans la capitale française, Damini, est à Paris. Burna Boy, prêt à enflammer le Stade de France. Il avait déjà rempli les 45 000 places de la Défense Arena il y a 2 ans. Le roi de l'Afrobeat qui s'attaque aux 80 000 places de l'enceinte dionysienne. Le chanteur de 33 ans qui sera le premier artiste africain à s'y produire. Lui qui a explosé en 2019 avec African Giant. Il compte déjà 7 albums au compteur, dont son fan Anna et Sonia. La première est franco-marocaine, la deuxième franco-tchadienne. Et les deux sont prêtes pour le grand show, comme elles l'ont dit, à Tanita Fallé.
C'est vrai que peut-être ma famille là-bas commençait à écouter, mais globalement comme ça. Et quand je leur ai dit que j'écoutais Burna Boy, ils m'ont dit « Mais comment tu le connais ?» Enfin, c'est un artiste du continent, t'habites à Paris, vous écoutez pas ça? Je dis, bah si, on écoute ça, et même jusqu'aux États-Unis. Donc c'est vrai que ça rajoute aussi ce côté-là de proximité. Ouais. Les sujets qu'il abordait, c'était des sujets importants de société, de politique, etc. Et je pensais vraiment pas qu'il serait devenu l'African Giant comme il le dit maintenant. Bah, ça me rapproche aussi de mes racines, je trouve, et c'est ça que ça m'apporte.
Ouais, moi totalement, et je trouve qu'avec l'album African Giant, justement, ça a permis à plein de gens d'être plus fiers de leur origine et d'oser l'acclamer haut et fort comme Burna l'a fait en fait.
Igbo, Nshayo, extrait de Last, chanson de clôture pour Burna Boy. Attendu ce soir au Stade de France, un autre stade surnommé Théâtre des Rêves, qui a viré au cauchemar pour l'Olympique Lyonnais, proche de l'exploit. Hier, en quart de finale, retour de la Ligue Europa à Old Trafford face à Manchester United. Et en prolongation, bien qu'à 10 contre 11, l'OL qui menait 4-2 avant de totalement s'écrouler dans les 5 dernières minutes et de finalement s'incliner 5-4 sur un dernier but signé Harry Maguire. Les Red Devils qui affronteront Bilbao en demi-finale, tandis que Tottenham rencontrera de son côté la surprise norvégienne de Bodø/Glimt. RFI, il est 5h10 ici à Paris. Excellent réveil à notre écoute.